Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Boca. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Agleté. Ses parents que l'on ne saurait voir, une série en 4 épisodes signée Agathe Hernier.
En début d'année, l'hôpital de Limoges a équipé une chambre d'une baignoire et d'un plan de change à hauteur variable pour les parents à mobilité réduite. L'initiative est encore rare, les hôpitaux étant toujours en léger retard en termes d'accessibilité. Karine et Jackie ont pu en témoigner dans l'épisode 1, livrés à eux-mêmes et bricolant pour adapter leur environnement au fauteuil roulant. Mais depuis quelques années, on a vu se multiplier les services dédiés à la parentalité des personnes en situation de handicap, les SAPPH. Ces structures offrent un accompagnement complet, chaque détail est minutieusement étudié, des lits à la table allongée, du bain à la sieste, du pratico-pratique au psychologique. Avec un seul objectif, garantir à tous les mêmes chances d'être de bons parents, avec l'enthousiasme et l'assurance que tout un chacun mérite.
Le SAPPH, c'est une longue aventure.
Et il y a des gens qui travaillent pour m'aider à ce point, quoi, c'est génial.
Comment apprendre à lire ? Comment regarder ensemble un livre, comment décrire des images qu'on ne voit pas.
Et puis aussi pour montrer aux parents qui viennent que c'est pas les premiers, qu'ils sont pas seuls, et de se dire que c'est possible.
Et puis elle se bat maintenant pour le développer, parce qu'en fait le besoin il est partout.
L'injustice, personne ne pourra jamais la résoudre. La faiblesse, oui.
Je m'appelle Agathe Hernier, et vous écoutez Ces parents que l'on ne saurait voir. Épisode 2, les structures spécialisées. Me voilà arrivée à Bonport, à La Réole, une commune du sud-est de la Gironde. Je m'apprête à rencontrer l'équipe du SAPPA Gironde, et c'est Laure Carpenteil, la directrice de l'établissement, qui vient me récupérer en voiture. Direction le centre Jean-Bernard. Le site accueille le service depuis 4 ans. Sur place, un ensemble de bâtiments, à l'écart de la ville et niché au milieu d'espaces verts, où le calme semble régner. Enfin, presque. Lorsque j'arrive, deux mamans sont déjà là, Tiphaine et Caroline. Les petits Timéo et Opaline s'amusent déjà avec Mélanie, l'éducatrice de jeunes enfants. Anne-Marie, l'infirmière coordinatrice de réseau, nous explique où on met les pieds.
Donc là, vous êtes sur l'aréole où aujourd'hui, il y a une permanence qui est comme tous les mercredis organisée, où on accueille les mamans et leurs mamans, papas, parents, futurs parents. Pendant 2h30, les personnes sont là et profitent du moment avec leurs enfants pour partager en fait un moment de partage. Il n'y a pas d'objectif, ils viennent ensemble et il y a des échanges entre parents. Il n'y a aucune obligation, juste nous prévenir. Ou bien on ne vient pas, mais on est là pour les accueillir.
Les rayons de soleil traversent la pièce à vivre, lui donnant une atmosphère des plus chaleureuses. Ici, il y a largement de quoi s'occuper.
Sur ce lieu de vie donc, où on a installé des petits jeux, aujourd'hui il y a un parcours moteur puisque nous avons Timéo qui est petit et qui découvre l'environnement à quatre pattes. Et puis des jeux après un peu plus élaborés puisque nous avons Opaline qui est plus grande et qui va partager certainement, enfin qui va faire des petits jeux après. Il y a un petit goûter, on boit un jus, un café, enfin on partage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la pièce un peu centrale où nous, on se réunit, on fait les réunions, on discute, on accueille. Il y a la cuisine qui est là où il peut se passer des ateliers.
Justement, pendant ce temps-là, l'éducatrice de jeunes enfants est au fourneau.
Donc là, qu'est-ce que vous faites ?
Je fais des gâteaux, des pancakes pour le goûter avec les enfants. Une recette qu'on a préparée avec une maman, dans l'idée qu'elle puisse le refaire après à la maison avec sa fille.
Derrière moi, une grande bibliothèque.
Alors oui, une bibliothèque où il y a d'une part en fait des livres de prêt adaptés à tout âge. Les enfants, les parents peuvent les regarder, les lire sur place ou les emporter et les ramener après. Certains sont adaptés sur le handicap visuel, donc traduits en braille. On adapte, on propose, voilà. Et ils se saisissent ou pas.
À eux, parents, de décider si les ressources mises à leur disposition font écho à leurs besoins. Ici, pas de formule magique. Chaque situation est unique, chaque réponse est personnalisée et le service ne cesse d'évoluer.
Tout a été créé. Madame Carpenteil, depuis 2019, s'est battue pour créer ce service. Et puis, elle se bat maintenant pour le développer parce qu'en fait, le besoin, il est partout. On ne peut pas rester sur un seul service à la Réole. Enfin, ça paraît évident qu'il faut développer des antennes un petit peu partout. Et ça va devenir difficile de répondre à la demande en l'état. Donc il va falloir recruter, s'étendre. Voilà, c'est impératif.
Nous voilà de retour avec Laure Carpenteil. Conseillère en économie sociale et familiale de formation, elle a travaillé au sein de structures dédiées aux adultes en situation de handicap et dans des services d'accueil mère-enfant. Un parcours entre le handicap d'une part et la parentalité de l'autre.
Et c'est au travers de ces multiples expériences que je me suis rendu compte qu'entre les deux, en Gironde en tout cas, il n'y avait rien. Quand il s'agissait d'une parentalité plus spécifique, avec des besoins propres à chacun, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'offre adaptée, mais qu'il y avait surtout énormément de besoins, et que c'était des besoins qui n'avaient aujourd'hui pas de réponse spécifique.
Quand elle découvre le taux de placement des enfants de parents en situation de handicap, c'est le déclic. Dès lors, elle prend position pour l'égalité des chances entre tous les parents et se démène pour créer un SAPPH en Gironde. Le centre ne se limite pas à cette pièce centrale. Loin de là, Laure continue la visite du lieu.
Alors ici, du coup, c'est une salle de puériculture adaptée. C'est-à-dire que c'est un endroit où les parents peuvent venir explorer, expérimenter le rôle parental qui va venir, découvrir le matériel aussi qui peut être adapté et en compensation à leur handicap. Donc par exemple, on a des lits hauts qui peuvent permettre aux personnes qui sont à mobilité réduite ou avec des troubles de l'équilibre de pouvoir coucher leur enfant, poser leur bébé dans le lit tout seul. Vraiment, l'objectif, c'est de faciliter l'accès à la parentalité. Après, on a par exemple des babyphones vibrants qui permettent aux personnes qui sont non-entendantes de pouvoir se lever la nuit quand le bébé pleure parce qu'eux ne l'entendent pas. On a effectivement des tables allongées qui se lèvent et qui se baissent pour les personnes qui sont en mobilité réduite ou en trouble de l'équilibre. Et aussi, il n'y a pas que du matériel. C'est ça qui est important ici, c'est que vraiment, on a des poupons lestés d'apprentissage qui permettent aux parents qui attendent un bébé, par exemple, de se projeter. Quelle taille il va faire, quel poids il va faire à la naissance, qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser comme geste ou qu'est-ce que je ne vais pas pouvoir faire, et d'apprendre des techniques, vraiment de réessayer pour avoir confiance en soi. Donc ça, c'est vraiment un espace qui est dédié à ça.
Il y a même beaucoup de photos. Je ne sais pas si c'est des bénéficiaires du SAPPH.
Oui, tout à fait, c'est des bénéficiaires du SAPPH. Vraiment, l'idée, c'est de rendre cet espace vivant pour qu'ils se sentent à l'aise. Donc, on a vraiment voulu rendre ce lieu chaleureux et puis aussi pour montrer aux parents qui viennent que ce n'est pas les premiers, qu'ils ne sont pas seuls et qu'effectivement, ici, ils peuvent être eux-mêmes. Ça, c'est important.
Et ça permet d'avoir des modèles qui nous ressemblent.
Exactement, oui, tout à fait. Et de se dire que c'est possible. Malgré le handicap qu'on a et malgré la situation, on peut trouver des solutions, ou en tout cas, on peut les chercher ensemble. Parce qu'il faut se dire aussi que les parents sont les premiers à apporter eux-mêmes des solutions et qu'on s'enrichit d'eux tout le temps, parce que ce sont les personnes qui sont le plus à même de nous dire si ça va ou si ça va pas. On s'appuie aussi sur eux, et les autres parents s'appuient sur eux, parce que quand on organise des rencontres ou des groupes, c'est là aussi où ils peuvent échanger leurs astuces et sous forme de pair aidance, en fait.
La paire aidance, c'est l'entraide entre des gens concernés par une problématique commune. En l'occurrence, ici, la parentalité en situation de handicap. Ceux qui ont déjà surmonté des obstacles peuvent apporter leur soutien aux moins expérimentés. Mais nous en parlerons plus tard dans la série.
Donc ici, c'est une salle d'activité où vraiment on a... Alors là, du coup, c'est une salle qui est d'autant plus chaleureuse parce qu'il y a beaucoup de couleurs. C'est vraiment un espace où les parents peuvent se retrouver en petits groupes où effectivement, ils peuvent... Déjà partagé sous forme de groupe de parole qu'entre parents avec la psychologue du service sur des thématiques qui les préoccupent au quotidien. C'est aussi un espace où on travaille les émotions, parce qu'en fonction de la pathologie du parent, parfois c'est difficile effectivement de connaître ses propres émotions et donc de repérer celles de son enfant. Par exemple, quand un éducateur nous dit « si ton enfant est en colère, tu peux peut-être essayer ça ou ça comme stratégie éducative », et finalement, si on ne sait pas repérer qu'est-ce que c'est la colère, on va se retrouver rapidement en difficulté. Donc ça sert aussi à ça.
Précisons qu'à l'aréole, la plupart des parents pris en charge présentent un handicap intellectuel ou psychique. Parfois, dans les SAPPH, un type de handicap est surreprésenté.
Donc ici, on appelle ça une puériculthèque. C'est un espace où on stocke effectivement tout le matériel que l'on peut prêter aux parents. Vraiment, l'idée de cette puériculthèque, c'est du matériel spécialisé qui peut être prêté. Donc l'idée, c'est que les parents puissent essayer et après, éventuellement, investir s'ils en ont besoin.
Qu'est-ce qu'on y trouve ? Vous pouvez montrer quelques...
Alors, on y trouve... plusieurs types de babyphones vibrants, du matériel de puériculture, de linge pour les enfants qu'on réadapte. On peut mettre des zips, des scratchs qui sont faciles à enfiler quand on a une difficulté de motricité, par exemple. On va trouver différents types de lits. On a beaucoup de jeux. Alors, pas spécialement toujours que des jeux adaptés, parce qu'on a certains jeux en braille, effectivement, certains jeux sonores, certains jeux tactiles, c'est une certitude. Mais nous, on veut vraiment montrer aux parents qu'avec ce qu'on trouve dans les magasins classiques, on peut aussi faire beaucoup de choses et sans avoir à acheter du spécialisé. Voilà.
Plein de trucs.
Un peu la caverne d'Ali Baba ici.
C'est clair.
Comment je me suis retrouvée au SAPPH ? Un pur hasard.
C'est grâce à Marion que j'ai découvert l'existence de ces structures. Vous savez, lors de notre appel, il y a quelques années, je vous en ai parlé dans le premier épisode. À elle, maintenant, de nous raconter comment elle les a découvertes à l'époque.
Quand j'étais enceinte, j'avais une chienne guide. Et donc, pour le suivi, je vais à l'école de chien guide de Paris. J'étais enceinte avec mon gros ventre et on m'a dit « Ah, vous connaissez la PMI qui accepte les chiens guides ?» Et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde pour pas faire de mauvais jeu de mots. Et du coup, on m'a dit que c'est dans le 14e. Donc j'ai cherché, j'ai fait toutes les PMI du 14e, j'ai appelé tout le monde. Je savais pas du tout ce qu'ils faisaient. Hein. Mais, un truc, une structure qui accompagne les parents aveugles, intéressant. Et j'y suis allée.
Marion n'a jamais douté de sa capacité à être mère. Mais assez rapidement, elle se demande comment elle va s'organiser. Pendant la grossesse, elle n'a pas la tête aux questions pratiques, aux urgences concrètes. Alors que l'équipe du SAPPH de Paris avait déjà les réponses à des questions qu'elle ne s'était même pas posées.
Donc je suis enceinte de 4 mois, on me demande si je vais allaiter ou donner le biberon, donc moi j'avais prévu d'allaiter, mais on me demande comment j'imagine donner le biberon à ma fille. Et moi à l'époque c'est simple, je me dis bah, je peux pas le faire, pas grave. Enfin, après quand on est non-voyant, là, d'ailleurs je pense que c'est pas valable pour... tous les handicaps, en fait, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Des fois, on peut les faire, mais on ne le sait pas.
Par exemple, donner le biberon. Une simple seringue crantée permet de mesurer au toucher le bon nombre de millilitres et le tour est joué.
C'est de la bricole. Mais en fait, ça a été un truc, mais en termes d'émancipation, assez fou. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent pour m'aider à ce point. Ouais, c'est génial. Parce que moi, je m'étais imaginé être beaucoup plus dépendante que ça.
Pendant sa grossesse, elle avait repéré des mamans aveugles qui personnalisaient des livres jeunesse. Elle mettait du braille transparent sur les images, histoire de partager la lecture avec leurs enfants en comprenant ce qu'ils voyaient.
Oh, mais jusqu'où elles vont, quoi, ici ? Enfin, c'est incroyable. Donc on peut en plus nourrir, soigner, c'est la base. Mais après, il n'y a pas que ça à faire. Et effectivement, la lecture, bon, à lire une petite histoire à son bébé ou à son enfant, même quand il est un peu plus grand... Bah, c'était une frustration terrible à laquelle je me préparais. Même à ça, elles avaient une réponse. Je pense à une maman que j'ai interrogée pour ma thèse et qui formule ce que je ressens. En fait, elle l'a formulé, je lui pique sa formule. Ah d'accord, ici, on peut prendre le contre-pied de l'histoire. Quand on est aveugle et handicapé, je pense, bon, je parle de la cécité, et enceinte, bon, les gens sont tous très très prévenants. Il y a une espèce d'aura autour de moi. On va t'aider, on va t'aider, on va t'aider, on va t'aider. Marion, t'inquiète pas, on va t'aider. Si bien qu'à un moment donné, en fait, j'appréhendais d'être trop entourée, trop un peu dépossédée, un petit peu aspirée, j'ai envie de dire saoulée par les autres. Et ce qui était intéressant, c'était donc de prendre le contre-pied de cette histoire, c'est-à-dire de, que je sois vraiment actrice de tout un tas de petites tâches, alors que je n'avais pas du tout anticipé que je pourrais faire ça.
J'ai rencontré Drina Candilis. Elle m'a reçue dans son cabinet de psychologue à Paris pour évoquer la genèse du SAPPH dont parle Marion. C'est le tout premier service du genre à avoir ouvert en France.
Le SAPPH, c'est une longue aventure. J'ai toujours enseigné et travaillé dans le domaine de la périnatalité.
En 2003, la directrice de la PMI de l'Institut de puériculture de Paris l'a contactée. À l'époque, Drina Candilis était formatrice à l'échelle de Brazelton, un examen qui évalue les compétences des nouveau-nés. La directrice lui a raconté que quelques mamans aveugles fréquentaient la PMI en lui proposant d'utiliser cette échelle pour renforcer la communication entre les mamans et leurs bébés. Elle a accepté.
C'est là où l'aventure a commencé, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait un groupe de mamans aveugles qui venaient de la VH et qui parlaient toutes les semaines, ou tous les 15 jours, je ne sais plus, de leurs difficultés. Mais c'était beaucoup, quelle est la prestation, combien je gagne d'argent, pourquoi c'est pas accessible, enfin des choses qui sont très importantes pour les personnes handicapées, mais qui étaient très factuelles. Et donc, peu à peu, le groupe de parole a commencé à parler de leur vie, de leur maternité, et surtout, on a commencé à penser à un dispositif particulier et adapté pour ces mamans pour pouvoir découvrir le bébé. Voilà, le SAPPH est arrivé quelques années plus tard, après avoir demandé des subventions, et c'était pas très facile, et défendre ce projet qui était de faire un projet autonome par rapport à la PMI, parce que de plus en plus de femmes venaient nous voir. À la PMI, peut-être qu'on avait, je sais pas, 5, 6, 7, 10 femmes, et peu à peu, avec le bouche à oreille, on en a eu 30, 40, et donc il a fallu vraiment créer un service spécialisé.
Les parents venaient une fois par mois pour parler de leurs difficultés. Petit à petit, le suivi n'était plus cantonné au premier moment de la vie, comme prévu au départ, mais s'étendait jusqu'aux 4, 5, voire 6 ans de l'enfant.
Comment apprendre à lire? Comment regarder ensemble un livre? Comment décrire des images qu'on ne voit pas? Comment jouer? Chaque nouvelle étape de développement repose de nouvelles questions. Je prends un exemple, l'acquisition de la marche. Quand le bébé ne marche pas, le parent il est assez tranquille. Il ne bouge pas, il est là dans son relax, il est sur le tapis, il est dans son lit, bon, tout ça va bien, dans les bras. Ok, mais quand il se déplace, où est-ce qu'il va dans la pièce? Est-ce qu'il va toucher la prise? Est-ce qu'il va renverser une casserole? Est-ce qu'il va se coincer les doigts dans la porte? Tout ça, la maman ne peut pas le voir.
Alors, comment les parents peuvent-ils se préparer à tout ça? Grâce à ce que Drina Candilis appelle des stratégies anticipatrices.
Je prends l'exemple banal du déplacement. Si la personne ne sait pas anticiper ce qui va se passer, elle se cogne, elle est furieuse, elle a l'impression que tout le monde lui en veut, etc. Ça crée un sentiment d'injustice. Voilà, une des principales choses. La faiblesse, c'est une chose, l'injustice, c'en est une autre. L'injustice, personne ne pourra jamais la résoudre. La faiblesse, oui. Et c'est peut-être ça l'idée d'une stratégie, c'est comment combattre l'injustice, comment anticiper des situations difficiles. Ça n'existe pas dans les maternités, on ne prépare pas les mamans à la vie quotidienne avec un bébé. On leur dit, ben voilà, vous allez accoucher comme ci, comme ça, et puis ce qui va se passer, ce qui se passe pendant leur grossesse, eh ben c'est tout. Et je crois qu'anticiper les besoins des bébés, c'est justement essayer de veiller à leur bien-être. Et je trouve que cette anticipation, elle est vraiment importante. Je crois que vraiment, accepter sa faiblesse et accepter de l'aide, c'est essentiel. Mais c'est essentiel pour tout le monde. Toutes les mères peuvent être en difficulté, à moins de se croire vraiment invincibles. Toutes les mères peuvent être en difficulté dans l'éducation de leurs enfants. Toutes.
Lorsqu'Edith Way, Martine Vermillard et Drina Candilis ont fondé le SAPPH, elles pensaient qu'il finirait par disparaître. Elles imaginaient que les services spécialisés fermeraient pour intégrer progressivement la prise en charge de ses parents dans le droit commun.
C'était un peu optimiste, parce que c'est pas tout à fait vrai. Et puis que L'égalité, c'est une égalité de droit, mais ce n'est pas une égalité de vie. Donc, forcément qu'il faut déployer des systèmes spécifiques. Ça me paraît quand même encore très évident.
Mais peut-on vraiment parler d'une égalité de droit aujourd'hui ? Malgré les piliers fondamentaux que sont le droit à la compensation, l'emploi, la scolarisation, l'accessibilité et la création des MDPH, la loi de 2005 laisse une thématique dans l'ombre, la parentalité. Les aides financières spécifiques à cette parentalité, instaurées seulement depuis 2021, offrent un espoir timide. Vous le verrez au prochain épisode, entre des soutiens parfois insuffisants et un retard institutionnel, difficile encore de parler d'égalité de droit.
Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Ces parents que l'on ne saurait voir, une série signée Agathe Hernier pour Podcastine. Si vous aimez nos productions et souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.